Que cela vous plaise ou non, nous sommes un couple d'amoureux transis.
Un couple d'amoureux transis qui s'est rencontré autour d'une brochette de crevettes soufflées sur une plage de sable fin il n'y a pas 3 semaines. Oh. Stéphanie, peut-on parler de quelque chose de vraiment sérieux? Vous êtes la première fortune du continent, dois-je vous le rappeler? Si Eden est une propriété richement fleurie, elle attire autant les abeilles que les vautours.
Craig Danners, playboy, champion de marche rapide, passe la bague au doigt de Stephanie Harper, héritière nunuche, qui va succomber dans d'atroces souffrances au fond d'un canyon où Craig l'a précipité le lendemain même de leur mariage. Miracle, Stephanie est sauvée par un médecin aux cheveux longs qui la soigne dans une clinique dans la forêt et fait d'elle une nouvelle femme. L'heure est à la vengeance. Stephanie, lancée à la reconquête d'elle-même, va confondre l'ignoble Craig, éprouvé au monde entier. Qu'elle est bien plus qu'une idiote fortunée. En s'attaquant au soap opéra, Alex Lutz fait bien plus lui aussi que parodier un genre populaire. Il poursuit son vaste travail d'inventaire, les années 80, le chic, le fric, des hommes et des femmes triomphants, des médias de masse encore tout puissants. L'acteur et réalisateur y revient sans cesse, exhumant ce que cette décennie peut avoir de ridicule et d'attachant, mode d'emploi d'un monde déclinant.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Merci de Bonjour Alex Lutz.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter. La vengeance au triple galop, quel titre! Ce soir sur Canal Plus à 21h, Audrey Lamy et Stéphanie Harper. Audrey Lamy et Stéphanie Harper. Pourquoi elle était difficile à dire cette phrase?
Je ne sais pas.
Ah. Et ensuite, le film sera disponible sur MyCanal. Vous êtes né à la fin des années 70, Alex Lutz. Pourquoi les années 80? Pourquoi fouiller la production et l'esthétique de ces années-là?
Un peu par rapport à tout ce que vous avez dit dans le prologue, je crois. c'est inspirant, parce que c'est les derniers moments de ce 20e siècle, plein d'appétit. Et puis bon, trébuchant. Avec des phrases dingues comme après la chute du mur de Berlin, il n'y aura plus d'histoire, des choses comme ça, qui nous ont quand même, on les a eu au biberon, nous,
oui, c'est ça.
De se dire, après tout, ces histoires de guerre, c'est terminé. Moi, je me souviens de ça, adulte.
C'est ça.
De grandes tablées d'adultes rigolant, s'appelant tous par d'autres noms que leurs prénoms, Babette, Biboute, bronzé.
Avec des mèches décollées, des bracelets qui cliquetaient, des
voitures un peu décapotables, pas non plus la plus chère, mais enfin, une espèce de pouvoir d'achat un peu, encore un peu serein. Un début de tsunami qu'on sentait quand même, je crois. Et des discours de non-inquiétude parce qu'une révolution... faite, sans doute bien faite, pas le temps de s'y retourner plus que ça, en tout cas la certitude qu'elle était bien faite.
Écoutez, Marion Cotillard, elle est Kim Randall.
Je me suis toujours sentie une femme forte et puissante. La mode et tout ce que j'ai pu accomplir dans ce business ont rendu cet algorithme parfaitement vérifiable. Je suis donc une femme puissante, car j'ai toujours décidé d'être une femme puissante. C'est aussi simple que ça. Les chouineuses en manque de confiance en soi, passez votre chemin. Mais les déterminées, avec de belles épaulettes et un maquillage volontaire. Bienvenue dans mon monde.
Je voudrais savoir ce que c'est qu'un maquillage volontaire, Alex Lutz, vous qui avez écrit La Vengeance au triple galop.
Avec Arthur Sanigou, je le salue, Lison Daniel et Thomas Poitvin, qui est au théâtre d'ailleurs en ce moment.
Qu'est-ce que c'est qu'un maquillage volontaire?
Mais c'est toujours pareil, cette génération qui a assumé une espèce de truc, on assume, on s'en fout, on est...
Catherine et Liliane étaient des femmes des années 80.
On est maquillés, on est à poil, on est machin, on roule vite, on s'en fout. mais je crois qu'après, c'est facile de juger, après ils en avaient besoin. Si on relie Annie Ernaux, c'est des gamins qui sont nés avec les récits de guerre et de guerre et de guerre de leurs parents. qu'ils racontent tous s'être lavés au lavabo et pas dans des baignoires et des machins, parce qu'ils ont connu, voilà, cette espèce de... Eux, pour le coup, avaient encore un pied, en tout cas, moral dans un presque 19e siècle et au-delà, dans l'autre sens. Donc je peux pas leur en vouloir,
non.
Mais bon, ils ont laissé des Lego qu'il faut trois, oh la vache.
Alors
un peu partout dans la baraque.
On va parler soap opera cette fois. Soap opera mode d'emploi.
Ainsi, vous pensiez m'avoir laissée pour morte dans ce canyon. Mais il aurait fallu le cran de m'abattre à la Winchester.
Oh, Winchester. Chut.
En bâclant ce détail, vous m'avez offert un ticket pour un deuxième tour de manège dans le parc de la vie.
Le soap opera Alex Lutz, ce n'est pas une série B. C'est-à-dire que le plus souvent, ce sont des productions à très gros budget. L'histoire de la série B à Hollywood, c'est le film à petit budget qui racle les fonds de tiroir et qui est fait avec des bouts de ficelle. Combien vous en avez revu pour écrire? Est-ce que vous en avez revu en réalité pour écrire? Ou est-ce que ça n'était même pas nécessaire? Tellement
c'était prégnant. Non, c'était. J'en ai pas revu des tonnes. En revanche, j'espère que je me trompe pas avec soap opera, parce que je crois que soap opera, c'est encore plus les productions type Feu de l'amour, qui sont presque des soaps d'intérieur. Je dirais, il y a quasiment zéro extérieur. Ils sont tout le temps dans des trucs de moquette épaisse. Donc, en termes de prod, on est un peu là sur les fonds de tiroir de ce que pouvait proposer la télé, ce que moi j'ai voulu parodier. En revanche, alors je sais pas comment ça s'appelle, les sagas, j'imagine. Mm-hmm. Bon, où là, c'est tout d'un coup quand quelques-uns avaient transformé l'essai en soap opéra, justement, représenter l'audience, on leur payait. Mmh. Une magnifique saga. Joanne Collins en est l'exemple incarné.
Absolument.
D'une nana qui tout d'un coup a su raconter une carrière assez invraisemblable à la télévision, est venue sauvant l'audimat de certaines séries qui, à peine avaient commencé, étaient déjà moribondes. C'est le cas de Dynasty notamment, où elle a été très importante pour la série, encore plus que Linda Evans, ou Heather Locklear aussi, qui est venue en renfort, et qui, au prétexte de faire un peu de patin roulette dans le hall, hop, ça faisait de l'audimat. Et c'est des femmes, après, pour qui l'industrie de la télé a écrit des espèces de grandes sagas où tout d'un coup elles étaient des héroïnes de leur propre destin, qu'elles étaient leur propre destin, de leur héroïne de leur propre destin. Et ça, c'est effectivement un peu plus cher, mais il faut quand même se calmer. C'est pas non plus Hollywood.
Non.
Donc c'est bien que du coup dans la construction, c'est fait à la fois avec beaucoup d'emphase,
de clinquant,
de plans larges et un peu de bon, on n'a pas le temps, donc le champ contre champ, on n'est pas sûr, on va peut-être se filmer face à la caméra un peu en biais et ça ira très bien pour se dire ce qu'on a d'important
c'est
à
ça.
Se dire.
Il faut quand même dire que la vengeance au double visage et non au triple galop existe
et
pour de vrai.
Australienne d'ailleurs et librement, totalement et pleinement assumée et inspirée. Parce que c'est vraiment une saga que je regardais avec ma grand-mère qui, je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouvais la formule dingue, elle disait allume-moi mon roman. On parlait de la transformation. Oui, allume-moi mon roman.
Ah, c'est très,
c'était
très
son
joli.
Roman. Alors, on parlait de la transformation des médias, c'est rigolo. Oui. Hein. Alors que pour elle, la télé, dans les années 50, c'était le diable. Et puis après, tu parles, on n'entendait plus que cette télé dans cet immeuble. Et donc, j'ai le souvenir de l'avoir vue avec elle, avec mes parents aussi. Et
donc
tout
la
ça.
Télé pour elle, c'était une machine à raconter des histoires.
Une machine à raconter des histoires. Et elle disait, il n'y a pas à dire, les Américains font quand même des belles choses.
C'est génial.
Elle trouvait ça formidable. Alors qu'on pouvait lui servir les trucs les plus invraisemblables. Après, bon, elle prenait les choses pour ce que c'était à la télé, quoi. Vu que je l'avais pas vue, elle trouvait que c'était une des meilleures blagues du monde, hein, aussi. Mais voilà.
C'est très joli. On va parler parodie.
Va pour le pendentif, je vous en donne $250 qu'on dégrèvera quotidiennement du prix de la chambre sur cette enveloppe.
$250? Mais le pendentif vaut au moins 100 fois ça.
Écoutez, mademoiselle, on n'est pas au souk d'Agadir.
Vous aviez dit d'Abidjan.
Peu importe. Un souk est un souk. Écoutez, c'est à prendre ou à laisser.
Extrait de La Vengeance au triple galop, diffusé ce soir sur Canal+. Autre extrait, écoutez.
Excusez-moi. Non, madame la juge. J'ai des preuves. Oh. À apporter au procès. Oh. Ma boucle d'oreille n'est pas une véritable boucle d'oreille. Non, elle est un véritable enregistreur vocal de type nippon. Oh.
Alors évidemment, en préparant cette interview à Alex Lutz, j'ai revu aussi Maîtresses et patients, Les Inconnus qui parodiaient la clinique de la Forêt Noire. J'ai revu Cette Barbara, leur parodie de Santa Barbara. Et je me suis dit que finalement, toutes ces séries dont vous nous parlez ce matin, elles datent d'il y a environ 40 ans, qu'elles ont été parodiées toutes et plusieurs fois dans le monde. Et je me suis demandé si vous, vous étiez un enfant de cette télévision-là, ou si vous étiez un enfant de ces pastiches-là, de ces parodies-là.
Plutôt un enfant de cette télévision-là, et qui a apprécié, entre autres choses, le divertissement qui m'était proposé, champ large, d'émissions ennuyeuses qu'il fallait regarder avec ses parents, à des émissions plus fun que je pouvais regarder. Mais c'est pour ça que j'aime bien être un pied... Ça, je trouve intéressant pour ma génération d'être à ce point-là un pied dans le 20e, un pied dans le 21e siècle. Vraiment, je trouve que c'est assez passionnant. Et puis pour les enjeux à venir, ça nous fout dans un drôle de truc intéressant. On se dit, ouais, d'accord, bon. Donc plutôt, je dirais plutôt un enfant de cette télé-là.
Donc vous êtes bien plus nourri des sopes que des pastiches, en réalité. Parce que des pastiches, il y en a beaucoup.
Si bien
et on a grandi avec.
Oui, et puis d'ailleurs, j'aimerais en profiter parce que ça m'a été dit plusieurs fois. Un format québécois qui s'appelle Le cœur a ses raisons et que j'avais
avec
écrit...
la partie de Scrabble.
Oui, enfin, ah, c'est et c'est Marc Labrèche qui fait ça.
Incroyable.
Et il y a une dizaine d'années avec Audrey, on avait fait un pastiche sur scène qui nous faisait hurler de rire et tout ça.
Déjà Audrey Lamy.
Oui, oui, déjà, c'est parti de là, de ce sketch, de l'envie d'en faire quelque chose d'autre. Et après ce sketch, on m'avait dit, oh, c'est dingue, on dirait Le cœur a ses raisons, etc., que j'ai découvert après coup. Et c'est pour ça que je vous parlais de soap opéra, parce que j'ai l'impression que sa démarche est vraiment de rendre hommage à des soap opéra tels qu'on en parlait, de format plus d'intérieur et tout ça. Et puis je l'ai découvert après coup, ce qui est assez rigolo, parce que effectivement, on est une génération qui avons intégré l'idée de pasticher des choses. En revanche,
voilà.
Je crois, je serais peut-être un peu plus âgé que moi, mais en tout cas pour son équipe, il y a Anne Dorval dedans, il y a plein de gens comme ça.
Et puis ce que vous dites aussi, enfin ce que je comprends entre vos mots, Alex Lutz, c'est que quand on pastiche et quand on parodie, c'est qu'on aime. C'est-à-dire on pastiche ce qu'on aime, on pastiche bien ce qu'on aime bien.
Je dirais qu'on pastiche, enfin c'est très présomptueux de dire ça, mais en tout cas je le crois moi quand pour être spectateur aussi, je trouve qu'un pastiche réussi, une parodie réussie est une parodie qui apprécie l'exercice au départ. Si on exècre l'exercice, c'est déjà foireux.
Donc il faut avoir plus de tendresse que de mépris en réalité.
Bah, j'ai l'impression que la tendresse avec l'objet rapproche de l'objet, vu qu'il faut le tordre. Si vous êtes déjà à l'exécré au départ, vous êtes déjà loin. Et si vous le tordez en plus, vous êtes très très loin. Donc ça devient
alors
absurde.
La torsion, elle pose plein de questions dans sa fabrication. La lettre d'adieu de Stéphanie au docteur chevelu, là.
Dan, il y a des revanches sur la vie qu'il faut savoir prendre en temps et en heure pour ne pas tomber dans l'amertume. Être votre épouse heureuse dans votre paradis serait un mensonge au regard du terrible passé qui m'assaille et que je dois être capable de regarder en face. Je suis certaine que nous nous retrouverons bientôt. Et quoi qu'il arrive, vous êtes celui qui aura su faire de moi une femme libre, confiante et bientôt sereine, j'en suis certaine. Je suis désolée. Avec tout mon amour, Stéphanie.
Alors, Alex Lutz, vous l'avez dit, plus ou moins, mais on peut le redire, c'est-à-dire que dans toute cette production de la télévision des années 80, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très mal jouées, très mal écrites, et souvent très mal filmées. Alors ma question, c'est comment vous, vous fabriquez votre pastiche? C'est-à-dire, est-ce que, parlons des comédiens, parce que vous n'avez pas pris des petits comédiens, vous avez pris des très bons comédiens.
J'amène juste une bémol sur ce que vous disiez, pas très mal joué en fait.
C'est ma question, justement.
Non, je crois pas.
C'est ma question.
Bah, écoutez, essayez de jouer en cross-bordé. En cross-bordé, pour les auditeurs, c'est quand on mélange les scénarios de celui du lendemain avec celui de la veille. Rentrer trentaines de minutes utiles par jour en machin épaulette et petite...
petite pochette pour dire... Mais enfin, ça a donné aussi des kilomètres de séquences avec des acteurs qui froncent les sourcils,
oui, mais
surjouent...
qui se débrouillent avec le code et qui sont souvent... Si vous leur offrez le cadeau, et d'ailleurs c'est arrivé sur certains formats américains où tout d'un coup Tarantino s'est amusé à ça merveilleusement, de rendre à César des choses qui l'ont fait rire ou amuser dans sa jeunesse, en disant à cet acteur de série Z, viens donc là-dedans, puis tout d'un coup on se prend une baffe en se disant, ah bah ouais, le gars il en a sous le pied. Justement, après l'emballage est une chose, Mais souvent, vous savez, après les chemins, à partir d'un conservatoire, ça va à peu près dans tous les sens. Hein. Et au départ, on joue pas trop mal nos trucs, quoi.
Comment on dirige des acteurs quand on pastiche de la série B ou de la grande saga ou de la saga
Fallait trouver un os pour chacun. Bon, Audrey, je rends hommage parce que c'est vraiment une gigantesque actrice et dramatique et comique. Et on l'entend d'ailleurs, elle a un sens de la musicalité tout en étant sincère en dessous. Enfin, elle arrive à faire un truc assez dingue. Et par ailleurs, pour tous les autres, je leur donnais. On se trouvait souvent un os à ronger, mais à ronger jusqu'au bout. Leïla Bekhti était tout en main et en ayant l'air de dire des choses en sous-entendu tout le temps, un peu raciste, on trouvait drôle qu'elle soit raciste.
Guillaume Gallienne. Quand je dis que vous n'avez pas pris des petits acteurs, vous
Guillaume
avez pris...
Gallienne travaillait sur le souffle, il proposait cette idée de sortir ses répliques comme ça en quasiment un seul souffle, ce qui fait qu'il est au bord de l'inanition à chaque fin de phrase, et c'est super.
Cotillard.
Ça met de l'enjeu. Cotillard, on s'est dit, tiens, une espèce de passive agressive, un peu comme ça, qui dit des horreurs, mais dans un calme absolu, avec une espèce de musique, comme ça, un peu, presque au bord de Delphine Seyrig, un peu en hauteur, comme ça, dans la voix. On trouvait, voilà, une oralité pour chacun, voilà.
Ah oui, ça, c'est vachement intéressant. Parce que Cotillard, elle arrive à une vraie méchante de pacotille, et malgré la pacotille, elle est une vraie méchante.
Elle est une, mais tout le monde est
le paradoxe du.
Tout le monde est très sincère dedans. Si vous n'êtes pas sincère dedans, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes quand même obligé. Alors ça vous demande de jouer la situation de j'ai été attaqué par un puma. Bon. Mais à partir de là, si vous ne mettez pas de la psychologie, si vous ne mettez pas trop de psychologie là-dessus, ça va très bien. Et du coup, vous êtes tout à votre enjeu. Et très fort à votre enjeu. Faut
c'est
être
ça.
Très très fort à l'enjeu. Gaspard Ulliel était le ténébreux qui, avec une espèce de voix très grave, était tout le temps comme ça, dans une espèce de charme de sa voix très grave, une espèce de conscience de sa voix, qui fait qu'il a construit un personnage extrêmement solide.
Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur la lumière, sur la photo, parce que c'est aussi dans notre imaginaire collectif une esthétique bien particulière qu'on reconnaît quasiment au premier coup d'œil.
Instantanément, oui. Très bleuré, quoi. Enfin, presque.
C'est-à-dire
une brillance, un. Comme si vous aviez 45 filtres, nos jeunes auditeurs vont peut-être savoir avec les réseaux, c'est des filtres qui suréclairent la peau, qui créent presque un halo, où les couleurs sortent à la fois très vives et à la fois un peu pastellisées. Voilà, si vous êtes en forêt, ben, vous avez une nuance de vert qui en devient inexistante.
Et ça, c'est indispensable.
C'est indispensable et c'est même pire, c'est-à-dire que. Et ça, je m'en étais rendu compte pour Guy, mais où il y avait quand même les exercices des scopitones reconstitués dedans. Vous êtes obligé d'abîmer davantage parce que le souvenir a travaillé. C'est-à-dire que sur Guy, pour vous donner un exemple, on avait des scopitones des années 70 à reconstituer. Et quand on les a reconstitués, à l'identique de certaines références, à l'identique, avec tous les moyens numériques qu'on a. Et ça n'allait pas. Parce que ça paraissait trop. Neuf, trop contemporain, trop présent. Et il fallait qu'on abîme davantage l'image pour que notre petit souvenir de gosse soit abîmé également. Enfin voilà, je
pour
sais pas
que
comment
ce soit
dire.
Le passé.
Rajouter une petite patine dessus, vous aviez pas le choix, ouais.
Merci beaucoup, Alex Lutz. La vengeance au triple galop, 21h, Canal+. C'est la fin de l'émission. Bonjour,
merci.
Ali Rebéi.
Bonjour, Sonette Villers. Un sujet un peu grave ce matin. On s'intéresse aux erreurs médicales. Comment faire face aux erreurs médicales avec l'émission Enquête de santé sur France 5. Nous verrons comment surviennent ces erreurs et la différence avec l'aléa thérapeutique. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.